Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Guy.
Bonsoir, l'hommage à Jacques Chirac, il se poursuit. Notre maison brûle et les questions après l'explosion à Rouen, clairement polluée. Et un budget 2020 quelque peu chiracien, vous le verrez, c'est dans les informés avec Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1, avec Virginie Pradel, fiscaliste, présidente de l'Institut Vauban, auteur de Impomania, l'absurdité fiscale française aux éditions de l'Observatoire, avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et avec Benjamin Grange, directeur général de Dentsu. Bonsoir à tous les quatre et bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. La France, vous le savez, s'apprête donc à rendre hommage à Jacques Chirac. Près de 2000 personnes ont signé déjà le registre à l'Élysée qui a ouvert ses portes dès hier soir. Depuis l'annonce de sa mort hier, les personnalités défilent dans les médias pour évoquer le souvenir d'un homme que nous aimons autant qu'il nous aimait, comme l'a déclaré hier soir Emmanuel Macron. Les mots, la tendresse de Patrick Sébastien, l'ami, le Corrézien, c'était dans le 1850 France Info.
On est de la même race, c'est pour ça qu'on a été amis. On aime les gens, voilà. Et on va s'apercevoir avec la perte de Jacques, il y a un mouvement de sympathie incroyable de toute une France qu'on n'entend pas, mais qui est de cette race-là, qui sont des gens qui sont bienveillants, qui sont humains. Mais ces gens-là, on ne les entend pas. Là, on les entend un peu plus parce qu'il était leur représentant. Mais en même temps, pour moi, la mort de Jacques, c'est un peu comme si le XXe siècle avait duré 19 ans de plus. C'est comme la fin du siècle d'avant. Il représente des valeurs, il représente des choses, l'amitié, mais on a partagé beaucoup de choses.
Vous vous rappelez quand vous aviez ce masque et ces lunettes, là?
Ouais.
Vous l'imitez?
Ouais, quand je l'imitais, c'est quand je l'ai fait venir dans le carnaval. Ah, mais je l'imitais fort bien. Oh, je peux juste vous citer une phrase, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de son côté inconstant avec les femmes. Un jour, je lui ai dit, Jacques, la question traditionnelle, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Ce que je regarde en premier chez une femme, c'est si la mienne me surveille.
Franck Dedieu, sur cette personnalité évoquée par Patrick Sébastien, c'est le Chirac populaire.
C'est le Chirac populaire et il a dit, quelque part, le 21e siècle commence en 2019. Alors c'est un peu grandiloquent, mais bon, on va mettre ça sur le compte d'une parenté. Il est pays, comme on dit, il est corrézien. C'est vrai que quelque part, c'est l'ancien monde un peu qui s'éteint. Hein, cet ancien monde, celui un peu des grivoiseries, du franc-parler, et puis, je dirais, aussi d'une certaine forme de peut-être le dernier président à avoir cru, peut-être en parlera-t-on au cours de l'émission, à penser que, en France, le politique est au-dessus de l'économique et qu'il y a encore une capacité de manœuvre, de marge de manœuvre pour justement s'élever au-dessus de ces contingences économiques. Alors, à mon sens, il a échoué en 96 lorsque finalement il s'est plié à la monnaie unique et pour qualifier la France à la monnaie unique. Mais en revanche, c'est vrai qu'il représente, il incarne une sorte d'ancien monde et puis l'entrée dans ce nouveau monde. Juste un mot, je note quand même qu'il y a beaucoup du monde du spectacle qui deviennent un peu des mécontemporains. On sent que Patrick Sébastien n'aime pas le nouveau monde, celui des réseaux sociaux, etc. Et de la même manière, il y a quelques semaines, que Alain Delon, que Fanny Ardant, dans une certaine mesure aussi Sardou,
qui est là.
C'est vrai. Mais d'un autre côté, ça nous dit quelque chose, cela. Ça nous dit quelque chose.
Virginie Pradel, cette France des terroirs, c'est une France silencieuse, comme semble l'expliquer Patrick Sébastien, qui a parlé des Gilets jaunes également au passage. Hein.
Oui, je pense que Jacques Chirac, c'est un président qui attire beaucoup la sympathie. C'est un peu le président saucisson cassoulet, vous voyez ce que je veux dire.
Saucisson cassoulet, vous êtes sévère.
Non, mais c'est le président avec qui on a envie d'aller au bistrot, qui s'est jamais montré arrogant, contrairement à d'autres présidents, si vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, il a une bonne image. Bon, moi, je ne louerai pas son bilan politique, parce que voilà, je pense que voilà, c'est discutable, mais bon, on n'en parlera pas. Mais voilà, quant à l'homme, il attire la sympathie de façon générale et il attire pas du tout l'antipathie.
Thomas Clay, je vous sentais frémir un petit peu.
me frémir, je ne sais pas, le temps est évidemment l'émotion, donc il faut partager ce moment, mais et puis c'est vrai que Jacques Chirac, on est forcément ému. C'était un président sympathique, ça vient d'être dit, c'était un président, une personnalité quand même exceptionnelle de la vie politique française. En plus, il sort quand même d'une période particulièrement difficile. Tout le monde sait qu'il était malade depuis des années, et ça forcément, ça suscite de l'empathie. Bon, moi je n'oublie pas que Jacques Chirac, il a été ministre en 1967, il a quitté l'Élysée en 2007, ça fait 40 ans de vie politique,
c'est trop long pour
vous,
ça.
Et ouais. C'est déjà le symbole ou le symptôme d'une démocratie malade.
C'est le 20e siècle, c'est le temps d'avant.
Au 20e siècle, tous les pays n'ont pas été comme ça, donc c'est aussi Jacques Chirac qui a été un animateur de cette pérennité, de sa propre pérennité, et donc en cela, il est daté, assurément. Et puis, pour quelqu'un comme moi qui est né en politique avec les affaires ou les combats contre les affaires, je ne peux pas écarter ça du bilan de Jacques Chirac. D'ailleurs, ce n'est pas une annexe au bilan de Jacques Chirac, c'est quelque chose qui traverse toute sa vie politique.
Oui. Parce que c'est un fil rouge, fil rouge de la carrière.
C'est un fil rouge, il y a les affaires de la mairie de Paris, puis après il y a, donc c'est le temps des turpitudes, ensuite il y a le temps de la cache, ou disons de la réclusion à l'Élysée, puis après il y a le temps de l'addition
au tribunal Grange, correctionnel. Ce que décrit Thomas Clay, au fond les Français ne lui en tiennent plus rigueur aujourd'hui. Ça date d'ailleurs de sa sortie de l'Élysée, hein, de sa condamnation.
Oui, en fait, quand on regarde, est-ce que Jacques Chirac était un bon président? Oui, 79% des Français disent oui.
C'est l'enquête de l'enquête qu'on a fait d'ailleurs pour France Info.
Voilà, qu'on a fait juste hier. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la même question posée 3 ans avant, où déjà il y avait 63% des Français qui disaient que c'était un bon président. Et alors le point pour rebondir sur votre propos, c'est de regarder ce qu'en pensent les jeunes. Et c'est vrai que quand les jeunes parlent, finalement, vous savez, on parle beaucoup des millennials, on parle beaucoup de ceux qui ont grandi, mais qui ont grandi dès tout petit quand Jacques Chirac était au pouvoir. Eh bien, finalement, ils le voient comme un personnage transgressif et presque hype. Et d'ailleurs, associé à Jacques Chirac, ce qui circule sur les réseaux sociaux, c'est l'image, vous savez, du président qui saute la barrière de la RATP pour finalement, il l'enjambe en costume.
Une image.
C'est une image. C'est celle qui est pratiquement la plus diffusée sur les réseaux sociaux, en tout cas par les jeunes. Après, le reste, il y a plein d'autres choses qui se passent. Et pour continuer sur ce que vous dites, oui, bien sûr, il est vu, quand on regarde ses marqueurs, comme quelqu'un de sympathique, de proche des gens. Mais on dit aussi, il incarne bien la France. Presque 87% des Français disent ça. Il est charismatique, il est solide et il a de l'autorité. C'est ça les marqueurs qui ressortent.
Allez, on reste sur l'hommage à Jacques Chirac, 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Léo Téchère.
La ville de Rouen est clairement polluée, selon la ministre de la Santé. Mais sur France Info, Agnès Buzyn dit ne pas avoir d'inquiétude sur les premiers prélèvements effectués. Des suies, des galettes d'hydrocarbures à nettoyer avec précaution, dit sur place la ministre. Hommage populaire à Jacques Chirac, sans Emmanuel Macron, dimanche aux Invalides. Le président de la République qui participera en revanche aux obsèques de son prédécesseur le lendemain, lundi, en l'église Saint-Sulpice, toujours à Paris. Mais pas de discours prévu. Le Sénat rejette le projet de consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique, le reste de la loi anti-gaspillage approuvé. Il doit interdire la destruction des invendus non alimentaires et donner plus d'informations sur la réparabilité des électroménagers. Avant cela, le texte doit passer par l'Assemblée nationale. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies appelle l'Égypte à changer radicalement d'approche face aux manifestations et à libérer les personnes arrêtées. Des milliers de personnes rassemblées encore aujourd'hui contre le président Abdel Fattah al-Sisi. Et puis des nouvelles de nos Français aux Mondiaux d'athlétisme de Doha au Qatar. Une chance de médaille demain avec Alexandra Tavernier en finale du lancer de marteau. La nageuse Renelle Lamotte qualifiée pour les demi du 800 mètres. Et le sprinter Jimmy Vico facilement qualifié pour les demi-finales du 100 mètres demain. Il a fini deuxième de sa série en 10 secondes 8.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Depuis hier, tous les extraits, tous les thèmes, au fond, tout a été exploré. La vie, sa vie, son œuvre de Jacques Chirac. Je vous propose un extrait ce soir sur la fracture sociale. Je vais vous faire réagir à ce qui avait été dit le 2 mai 1995. C'était sur France 2, c'était le fameux débat de l'entre-deux-tours face à Lionel Jospin.
C'est vrai qu'il y a deux France. Et c'est vrai que fracture ou faille, ça s'écarte. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur le bord de la route et qu'on est obligé d'assister. Et que l'autre France est de plus en plus taxée. pour permettre d'aider les premiers. C'est un système diabolique.
Franck de Dieu, on évoquera tout à l'heure Rouen, ce qui se produit, ce qu'a évoqué à l'instant Léo Técher, parce qu'au fond, il se passe quelque chose de grave et il y a eu la maison qui brûle. Hein. Et là, c'est la fracture sociale et on a les gilets jaunes aujourd'hui en France. Est-ce qu'il était précurseur ou au fond, ce qu'il a dit n'a pas été forcément suivi des faits?
Alors, j'ai envie de vous répondre plutôt que ce qu'il a dit n'a pas été suivi des faits et de son propre fait aussi. Parce qu'effectivement, si on se plaint des inégalités sociales dans les années 90 et qu'on s'aperçoit qu'elles se sont creusées et que les gilets jaunes ont émergé là-dessus, c'est vrai. Mais au fond, il a ce discours en 95 parce qu'il veut prendre les habits, je dirais, d'une espèce de bonapartisme un peu de gauche par rapport à Balladur qui va être un peu le représentant de la droite orléaniste plus libérale. Donc il joue cela avec Philippe Séguin. On attendait beaucoup, on a attendu Philippe Séguin. Et puis finalement, ils arrivent avec Juppé. Autrement dit, une vision plus libérale. Qu'est-ce qui va se passer en octobre 96? Il décide finalement à Dublin, de baisser la tête, c'est-à-dire qu'il a un choix, il a véritablement un choix fondamental, un choix systémique, c'est-à-dire est-ce qu'il qualifie la France pour la monnaie unique, ce qui suppose de passer de 6% du déficit public à 3%. Ça ne parle pas beaucoup aux lecteurs, 6% aux auditeurs, 6% à 3%. C'est-à-dire qu'il forcément, il va rentrer dans une route, sur une autoroute ordo-libérale qu'il ne pourra pas quitter. Et effectivement, on ne voit le résultat,
c'est
l'agrandissement de la fracture sociale.
Thomas Clé, sur le bilan de Jacques Chirac?
Le bilan global
non,
sur 40 ans de vie politique.
Quand on voit par exemple la fracture sociale, il n'y a pas eu beaucoup d'effets.
Je pense que la campagne de 94 était avant tout une campagne extraordinairement tactique et remarquablement menée avec cet emblème qui était la pomme. Et c'était une campagne qui, comme ça vient d'être dit très justement, était destinée à contrer l'influence de celui qui avait été son directeur de cabinet, c'est-à-dire Édouard Balladur. De manière générale d'ailleurs, Jacques Chirac n'a jamais été aussi bon que quand il défendait des idées plutôt de gauche, ou disons qu'on pourrait marquer à gauche. Et dans son bilan, il y a les grands discours, je pense qu'on en parlera. Bon, d'ailleurs, un bilan sur les discours, c'est un bilan assez pauvre. Mais il y a aussi, effectivement, des marqueurs de gauche sur l'environnement, sur la césure avec le Front National, qui a quand même été, même s'il y a une petite
tentation... Vous voulez dire qu'on retient le Chirac de gauche, finalement?
Et quand on se souvient qu'il était de gauche quand il était étudiant, et que Juppé, qui en 95 était droite dure et qu'aujourd'hui est quasiment centriste, voilà, tout ça est finalement incohérent.
Alors, Benjamin Grange et Virginie Pradel, je vais vous faire réagir à, vous évoquez Alain Juppé à l'instant, à ce qu'a dit l'ancien Premier ministre, c'était hier soir sur France 2.
Jacques Chirac était, je ne sais pas trouver les mots, plus qu'un ami, pas tout à fait un père, mais un homme politique avec lequel j'ai entretenu pendant 40 ans une relation de confiance, de compréhension, de fidélité réciproque qui, je crois, est assez unique dans la vie politique. On l'aimait, et tout simplement parce qu'il aimait les gens. S'il avait ce don de leur parler, d'être naturel au milieu d'eux, j'ai dit un jour qu'il l'avait appris à serrer les mains.
Oui.
J'avais un peu de mal au début.
Et quand on comment on serre les mains? Comment il vous l'a appris? Qu'est-ce qu'il vous disait?
On copie, on suit.
Virginie Pradel, beaucoup d'émotions hein, chez Alain Juppé aujourd'hui, mais le Alain Juppé évoqué à l'instant ici même par Franck de Dieu et par Thomas Clé, c'est l'homme qui au fond n'aura pas réussi et deux années plus tard, c'est la cohabitation. Donc il y a très peu de choses à dire du bilan de Jacques Chirac finalement, de cette époque-là.
Oui, alors bon, il a été victime de la cohabitation, mais il était aussi très velléitaire, hein, je pense que...
Velléitaire.
A été très velléitaire. C'est pas l'homme de la réforme, hein. Jacques Chirac, c'est encore l'homme du cassoulet. Enfin, c'est voilà, on retient son côté sympathique et d'ailleurs on ne met que ça en valeur.
Mais, on dit de lui que les principales réformes, au fond, elles datent de sa propre cohabitation d'avec François Mitterrand 86-88 avec les privatisations.
Oui, moi j'aimais beaucoup le Jacques Chirac des années 80. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Il a préfacé un ouvrage remarquable qui s'appelle L'allergie fiscale. Et là, on avait le vrai Chirac, hein, qui était un peu plus libéral et un peu plus comment dire volontaire hein, sur les baisses d'impôts qu'il dénonçait, enfin les hausses d'impôts qu'il dénonçait. Mais c'est vrai qu'il a changé après. Hein. Je pense que ces défaites électorales qu'il imputait d'ailleurs à cela l'ont conduit à tomber dans un certain immobilisme.
Benjamin Grange.
En fait, quand on teste ce que les Français ont finalement se sont souvenus de comme fait marquant de toute cette époque Jacques Chirac. Donc on teste un certain nombre de choses, alors des faits politiques, des faits économiques, etc. Et finalement, dans le peloton de tête, dans les 10 choses qui reviennent, on va retrouver quoi ? On va retrouver aucun élément économique. On va retrouver, évidemment, en priorité, l'opposition à la guerre en Irak. C'est le nom qui est le marqueur de l'ensemble de la présidentielle de la présidence de Jacques Chirac. Ensuite, on a la fin du service militaire. Et enfin, on a la qualification de Jean-Marie Le Pen face à Jean-Marie Le Pen le 21 avril 2002.
Rien d'économique.
Rien d'économique. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui est le deuxième marqueur qui est important en termes de forme? C'est finalement cette empathie, cette proximité qui finalement permet d'être toujours dans la pédagogie et qui fait que face aux crises, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y avait déjà les prémices de cette fracture sociale, eh bien, ça lui a permis de les gérer, de continuer, de toujours les gérer, alors qu'en fait, le problème était déjà existant à cette époque. Et c'est les deux marqueurs très importants, finalement, qu'on retient, enfin, que les Français, en tout cas, retiennent de cette époque de Jacques Chirac.
Thomas Clay, oui. Parce qu'il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne économique dans sa trajectoire politique. Le Chirac de 74-76 n'a rien à voir avec le Chirac de 86 qui trouve grâce à vos yeux. Le Chirac de l'appel de Cochin de 1980 n'est pas le Chirac plus tard qui va mettre le rempart contre l'extrême droite.
Vous voulez dire quoi? C'est un animal politique.
Il a navigué en fonction de l'évolution de la société. Et c'est une manière un peu féminisée de dire.
Par rapport d'ailleurs à ses adversaires. Oui, plutôt oui. Que pour
le Chirac de 94 n'est pas le Chirac de 86. Qui n'est lui-même pas le Chirac de 74.
C'est Edgar Ford Chirac, de la 5e République.
Il y a beaucoup de pleureurs aujourd'hui des Chirac.
C'est Franck Dieu. Pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi vous avez dit, c'est le Jacques Chirac de gauche qu'on aime bien. Et à regarder vos statistiques, mais pourquoi? Parce qu'en fait, et on lui reproche, et ma voisine va lui reprocher, parce que c'est l'homme de la non-réforme. Et la réforme, les Français, ils se disent que quand on leur parle de réforme, c'est moins de droits sociaux, moins de services publics, plus de flexibilité du travail. Et ils voient un homme qui, justement, n'a pas fait cela. Alors, on peut le regretter ou on peut s'en féliciter. En tout cas, l'homme de la non-réforme, c'est tout de même un choix, le choix de ne pas en faire.
Quand il dit réduire la fracture sociale, qui était au fond une belle idée et que soudain, à peine arrivé au pouvoir, il veut aligner les régimes spéciaux. Est-ce que les Français y ont vu une forme de contradiction? C'est le multi-Chirac, comme le décrit à l'instant Thomas Clay.
Ils n'y ont pas vu forcément une contradiction. C'est parce qu'à un moment donné, il fait partie, comme ces gaullistes des années 70-80, qui considèrent qu'en gros, on peut avoir la souveraineté nationale, le prestige français, à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas celui de la nation, qui est celui de l'Europe. Il a fait ce choix-là. En faisant ce choix-là, il pensait que le cadre européen allait permettre à la France de s'extraire de ce que lui a une forme de démocratie chrétienne et de social-démocratie bon teint. Et or, il se trouve qu'à ce moment-là, dans les années 90, l'Europe va faire le choix de l'ordolibéralisme, de la déréglementation. C'est en ce sens qu'il a raté ce pari, qui est de dire on change d'échelle au niveau supranational, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, mais on n'arrive pas à nos fins, c'est-à-dire au prestige de la France.
20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Léo Téchère.
La deuxième compagnie aérienne française va mourir ce soir. Aigle Azur définitivement liquidée à minuit. Aucune offre de reprise retenue aujourd'hui. 1150 salariés sur le carreau. Demain, c'est une autre compagnie française qui saura. XL Airways en cessation de paiement. Face aux difficultés du secteur, une intersyndicale appelle le gouvernement à l'aide. Après l'incendie de l'usine Lubrizol hier soir à Rouen, les premiers résultats des prélèvements effectués par les pompiers seront rendus publics ce soir. C'est la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui l'annonce sur France Info. Elle dit n'avoir aucune inquiétude pour la santé des Rouennais après ses premiers résultats. Le Liban aussi décrète une journée de deuil national pour Jacques Chirac. Ce sera lundi en même temps qu'en France. D'autres réactions à la mort de l'ancien président. Aujourd'hui, Xi Jinping salue un vieil ami de la Chine. Le pape exprime, lui, ses vives condoléances aux Français. La PMA ouverte à toutes les femmes, la mesure adoptée ce midi à l'Assemblée nationale. La procréation médicalement assistée sera donc ouverte aux couples de femmes lesbiennes et aux célibataires dès adoption définitive du projet de loi bioéthique avant l'été. Et puis 13 000 supporters attendus ce soir à Bercy, demi-finale de l'Euro de volleyball. Les Bleus affrontent la Serbie à 21h. Objectif qualification pour la finale contre la Slovénie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Ce qui va suivre va séduire Thomas Clay, qui est un amateur émérite de football. Il y a le Chirac de la victoire des Bleus de 98. Zinedine Zidane, en personne, lui a rendu hommage.
Je suis triste, tout simplement, parce qu'en plus, je le connaissais personnellement, enfin, dans le sens où, comme tu l'as dit, il a été notre président, mais il a été surtout le président de tous les sportifs et l'ami de tous les sportifs. Je pense qu'il adorait les gens, pas simplement le milieu de la politique. Je pense qu'il adorait les gens, même les plus retirés dans les campagnes. Et il a toujours démontré ça. Et ce que j'ai envie de me rappeler de lui, c'est peut-être les petits moments qu'on a eus où il parlait justement, enfin, où ça le sortait de la politique et ça le mettait dans une autre, où il était content de parler d'autre chose.
Alain Zizou, témoignage, hommage. Thomas Clay, le Chirac des Bleus de 98, logiquement, aurait dû faire chavirer ce pays. Il aurait dû être l'élément clé de cohésion sociale, sociétale.
Bon, d'abord, par principe, ce que dit Zidane est sacré. Donc, on écoute ce que dit Zidane et on écoute religieusement ce que dit Zidane. Le Chirac de 98, bon, il n'est pour rien, évidemment, dans la victoire de l'équipe de France, sauf erreur de ma part, il ne connaissait pas le nom des joueurs. Vous vous souvenez de cette image, quand on proclame le nom des joueurs au stade, il ne les connaît pas en fin de parcours. Au début de parcours, on peut le comprendre, mais en fin de parcours, en finale, il ne les mémorise pas. Et à la fin, il se trompe entre la Coupe de France et la Coupe du Monde. Mais pour autant, je crois qu'il était absolument sincère dans cette, comme toute la France d'ailleurs, cette fameuse France black blanc beurre de 1998.
Je faisais allusion à ça.
Tout le monde. Et c'est vrai que ça n'a rien donné par la suite. Et on est quand même en période de cohabitation depuis un peu plus d'un an en 1998. Mais ça n'enclenche rien.
Pourtant, Benjamin Grange, ce sont ces images-là que, au fond, parce que le temps a passé, que nous retenons.
Oui, c'est ces images-là. C'est aussi une deuxième image, c'est quand il était son voyage en Israël. C'est aussi celle sur laquelle il y a beaucoup de marqueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit un certain nombre de témoignages. C'est Zinedine Zidane. Mais quand on regarde la manière dont les Français s'expriment, finalement, le tout un chacun, c'est presque plus de 1000 messages par minute qui sont postés sur les réseaux sociaux et qui sont autant de témoignages de sympathie. Et parmi ces messages, finalement, il n'y a que des choses sympathiques. C'est-à-dire que quand on lit ça sur le nombre, finalement, de conversations, ça fait presque 500 000 en 24 heures, eh bien, on s'aperçoit que se dégage l'image d'un président presque humaniste. Et même les points qui sont un peu, on va dire, les ratés, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale ou la victoire du non au référendum, on aurait pu dire aussi les grandes grèves de 95, je veux dire, c'est quand même, oui. Ou le mouvement contre le PCE, le CPE, même ces mouvements-là, finalement, les Français n'en tiennent pas rigueur, ils ne retiennent que le positif. Et ça ne date pas que des dernières 24 heures. Déjà, il y a 3 ans, on avait déjà ces signes-là.
Oui, c'est antérieur à sa disparition. Je vais vous soumettre ce document étonnant. C'était ce matin, hein, sur France Info. L'ami de toujours, le compagnon de route, Jean-Louis Debray, qui évoquait un des multiples épisodes truculents de la vie de Jacques Chirac.
Vous savez, un jour, un journaliste l'interroge. Monsieur le Président, est-ce que vous faites du sport? Alors, on peut pas du tout. La seule fois où il a pris un survêtement, c'est pour les photographes. Et il répond au journaliste, oui, je fais du sport. Je le regarde, je crois, pas exagéré. Et le journaliste dit, mais quel sport? Et Chirac dit, des barres parallèles. Le sport le plus difficile. Il dit, mais c'est ahurissant, il dit ça, il se rend pas compte. Et il ajoute, un bar rive droite, un bar rive gauche. C'est du Audiard.
Virginie Pradel, au fond, vous disiez un président cassoulet. Je vous trouve un peu sévère avec cette expression.
Ah non, mais c'est pas péjoratif. Alors, non, mais c'est très sympathique.
Je voudrais que vous précisiez votre pensée. Voilà.
Ah oui, non, pour moi,
c'est... Parce qu'au fond, on retient ce personnage-là, finalement, assez proche des gens.
Mais moi, je trouve pas du tout ça péjoratif. Saucisson cassoulet, ça fait quand même partie de la France.
Ah, et la tradition.
De la tradition française. Et non, c'est pas péjoratif, je trouve que c'est.
Vous êtes
pas...
surprise de voir que les Français finalement oublient tout l'aspect économico-social des choses
et
les
bilans. Tout le monde s'en fiche en France de toute manière. Enfin, c'est... Non, mais... ce que je veux dire, c'est que passé quelques années, on ne se rappelle que de l'ancien président. Regardez Nicolas Sarkozy, qui était conspué encore il y a quelques années, fascine de plus en plus de personnes. C'est lui qui vend le plus d'essais en France. Et je pense qu'il aura...
On oublie tout, parce que vous nous donnez beaucoup de chiffres de sondages. Mais il y a un sondage qui, moi, m'intéresse, c'est le sondage de popularité de Jacques Chirac quand il quitte l'Élysée en 2007. De popularité, ou plus exactement, de possibilité de se représenter. Et le sondage, il est à 1% en 2007. Est-ce que c'est Frédéric de Saint-Cernin qui est à son cabinet à l'Élysée et qui dit « Vous n'avez pas d'espace pour vous représenter », comme si certains, d'ailleurs, l'avaient imaginé.
Il y a deux choses sur la trace mémorielle finalement qu'on laisse. La première chose, c'est qu'il y a toujours de l'émotion. C'est-à-dire que une trace que les choses émotionnelles. Ça, c'est vraiment le premier point. Franck ?
Oui, juste pour dire que c'est une part de notre jeunesse, ce que vous décrivez là. C'est pour ça qu'il y a une réhabilitation. Il y aura une réhabilitation de Jacques Chirac. Et puis juste d'un mot, quand Virginie dit « tout le monde s'en fout de l'économie qui est sociale », non, mais c'est que les Français, ce qu'ils aiment chez Chirac, c'est la conquête du pouvoir. C'est pas l'exercice du pouvoir. C'est la conquête,
qui s'en fiche.
Qu'est-ce qu'on retient du président Mitterrand, à votre avis ?
Allez,
l'abolition de la peine de mort.
20 heures
sociale.
20 heures et 28 minutes sur France Info. On marque une pause, le débat est passionnant. On se retrouve, rassurez-vous, dans un instant pour la suite des informés de France Info.
Et si vous restiez toujours connecté à votre business avec Orange ?
Moi, chez Orange, avec l'offre Connect Pro Fibre, je travaille plus vite.
Et moi, je fais des vidéoconférences avec mon équipe.
Et moi, j'ai fait enregistrer mon message d'accueil téléphonique par un studio pro.
Alors là, je reste sans voix.
Chez Orange, avec Connect Pro, profitez de la fibre jusqu'à 20 lignes fixes, 4 forfaits mobiles et des solutions pour rester toujours joignable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue.
Hommage populaire à Jacques Chirac, dimanche après-midi aux Invalides, à la veille des obsèques de l'ancien président. France Info se mobilise pour vous faire vivre la cérémonie et ce moment de recueillement. Édition spéciale avec Bernard Thomasson en direct des Invalides, dimanche dès midi.
France Info, et tout est plus clair. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
Elodie Calac pour les prévisions météo France.
Un temps agréable demain, il fera doux, 10 à 19 degrés le matin. L'après-midi, 18 à 25 degrés, jusqu'à 25 à 28 pour le sud-est. Au sud de la Loire jusqu'au Jura, ce sera nuageux le matin, déjà très ensoleillé en Méditerranée. Le soleil prendra le dessus partout l'après-midi. Au nord de la Loire, la matinée sera nuageuse, en particulier du nord de la Seine à l'Alsace, où quelques averses seront possibles. L'après-midi, davantage d'éclaircies, mais ça s'ennuagera sur la Bretagne à l'approche d'une perturbation. Elle traversera l'ouest et le nord du pays dimanche avec de la pluie, du vent. Des Pyrénées vers la Méditerranée et le Jura, le soleil sera encore bien présent. Les températures seront en hausse, une moyenne de 21 degrés au nord et de 27 au sud.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Guillaume Fariol.
Bonsoir. La ville est clairement polluée, c'est ce que dit ce soir Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, en visite à Rouen après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Le feu est désormais éteint, mais des suies sont tombées de l'immense panache de fumée noire. La ministre appelle à ne pas les toucher et à se laver les mains. Agnès Buzyn, accompagnée de son homologue Elisabeth Borne, elle annonce que de nouveaux tests vont être réalisés pour évaluer les risques de cette pollution. La ministre de la transition écologique promet la plus grande transparence.
Depuis le départ, il y a des mesures qui sont réalisées, d'abord par les pompiers, à la fois sur l'air et sur les suies, que à ce stade, ces mesures donc, n'ont pas permis de voir des polluants qui seraient préoccupants, mais que par ailleurs, nous avons prescrit à l'exploitant de faire une campagne de mesures beaucoup plus large, précise, systématique, des éventuels polluants, à la fois dans l'air, dans l'eau, sur les sols, sur les végétaux, et que, évidemment, ces résultats, au fur et à mesure, seront rendus publics en toute transparence. Donc, vraiment, la logique, c'est à la fois beaucoup d'exigences sur la surveillance des impacts éventuels sur l'environnement et une totale transparence dans la publication de ces résultats.
Jean-Michel Blanquer était lui aussi à Rouen aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation promet un retour à la normale dès lundi dans les établissements scolaires. Ils vont rouvrir, ils vont être nettoyés tout ce week-end. Toujours une longue file d'attente à l'Élysée. Ce soir, les Français viennent remplir les registres de condoléances installés à l'entrée du palais après la mort de Jacques Chirac hier. Après-demain dimanche, un hommage populaire ouvert au public prévu aux Invalides. Le lendemain, lundi, jour de deuil national, les honneurs militaires seront rendus à l'ancien chef de l'État, toujours aux Invalides. Une cérémonie religieuse est prévue à la mi-journée à l'église Saint-Sulpice. Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse dans l'intimité. C'est terminé pour la compagnie aérienne Aigle Azur. Le tribunal de commerce d'Evry n'a retenu aucune offre de reprise. L'activité se terminera ce soir à minuit. Selon la présidente du tribunal, il n'y avait aucune offre concrète, pas de candidat crédible. Aigle Azur emploie plus de 1100 personnes, dont 800 en France. Ce soir, une quinzaine de syndicats du transport aérien appellent le gouvernement à intervenir. L'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, adoptée par les députés sous les applaudissements à la mi-journée, c'est la mesure phare du projet de loi bioéthique examiné à l'Assemblée nationale. Les débats sur ce texte vont se poursuivre encore pendant une dizaine de jours. Le match se débute dans un petit peu moins d'une demi-heure à Paris-Bercy. La seconde demi-finale de l'Euro de volley. La France fait face à la Serbie. Les vainqueurs affronteront en finale la Slovénie qualifiée hier soir.
France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie avec Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne Université Paris 1, avec Virginie Pradel, fiscaliste, présidente de l'Institut Vauban, auteur de Impomania, l'absurdité fiscale française aux éditions de l'Observatoire, avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Benjamin Grange, le directeur général de Dentsu. Alors notre maison brûle, l'incendie aussi spectaculaire qu'inquiétant de l'usine Lubizol de Rouen est certes éteint, mais il continue de susciter des angoisses. Et pour cause, ces odeurs que les habitants qualifient de très entêtantes, qui entraînent parfois des vomissements, des galettes d'hydrocarbures dans la Seine, des agriculteurs en plein désarroi. Et puis il y a les suies. Écoutez cette mise en garde d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui s'est rendue sur place.
Il y a des suies et donc la ville est clairement polluée. Ces suies, il faut imaginer cela comme des galettes par exemple de goudron sur les plages. Si on voit des galettes de goudron sur les plages, on demandera aux enfants de ne pas les toucher et de se laver les mains. Eh bien c'est la même chose que nous demandons aux riverains aujourd'hui. Et nous demandons à ce que les enfants ne touchent pas ces produits parce qu'il y a potentiellement des hydrocarbures. Comme c'est une usine qui produit des hydrocarbures, même s'ils ne sont pas en grande quantité, même s'ils sont très proche des seuils, ça n'est jamais bon pour la population de toucher ce genre de produit.
Benjamin Grange, on a vu ces images de cette usine dévastée, on voit ces images des habitants apportant des masques et ce message assez anxiogène de la ministre de la Santé.
Oui, alors les Français en parlent beaucoup de cet événement, c'est presque 140 000 conversations dans les 24 heures, c'est à peu près trois fois moins que le témoignage vis-à-vis de Jacques Chirac. Donc on voit qu'on en parle énormément, on a passé là aussi, en termes de conversation, un véritable seuil d'alerte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ben, ils sont très impressionnés, en fait, par les images. Et il y a deux natures d'images qui ont fait vraiment réagir. C'est évidemment les fumées, les masques. Et puis surtout, sans qu'on sache véritablement quelle est la part de vérité derrière, ouais. Eh bien, les poissons que l'on voit dans la Seine, morts, et on se dit, ben, finalement, si c'est mauvais pour les poissons, ça ne doit pas être très bon pour les humains. Et tout ça, finalement, a généré une inquiétude extrême qui est en regard du début de la communication qui a été faite sur l'événement. Où finalement, on nous a un peu dit, finalement, tout va bien, soyez rassurés. Et là, il n'y a que maintenant où on commence finalement à être peut-être un tout petit peu plus authentique sur la réalité de ce qu'il y a et finalement oui. Commencer à sortir d'une communication qui était d'ailleurs les internautes le disent on était pour ceux qui étaient à cette époque-là on était presque un syndrome de Tchernobyl
le syndrome de Tchernobyl ne passera pas par la France justement oui. Ce qui me semble c'est que au-delà de la tragédie environnementale on sent bien un malaise sur comme vous venez de le dire très justement sur l'expression de la vérité par rapport à ce type d'événement. Alors, il il y a le nuage de Tchernobyl dont on se souvient tous, évidemment, qui s'est arrêté à la frontière.
À la frontière, bien sûr.
On a eu cet été quand même la pollution au plomb de Notre-Dame, où là encore, c'est pas clair ce qui s'est réellement passé, les taux de pollution dans le centre de Paris. Et là, on a une communication qui est effectivement extrêmement byzantine. Quand le préfet nous dit qui fait une sorte de dialectique en disant il y a effectivement une pollution qui n'est pas saine, mais qui n'est pas toxique, la dialectique entre le fait que ce soit sain et toxique est une dialectique que je trouve extrêmement subtile.
Mais on peut continuer à se déplacer, mais seulement pour travailler.
Franck de Dieu, trois ministres dépêchés sur place, cela donne... Bon, je sais bien qu'il y a le principe de précaution, et puis il y a toujours l'angoisse de cet épisode de la canicule jadis, mais ça donne un petit peu la mesure de l'urgence de la situation.
C'est tout de même peu rassurant, parce que c'est vrai que vous commencez par une analyse scientifique qui dit, je cite, « des traces d'oxyde d'azote dans des zones à proximité sans toxicité aiguë », donc c'est quand même assez rassurant, et puis vous avez la ministre qui avoue que c'est une ville polluée. Et donc, vous vous mettez à la place des Rouennais qui ont quand même, alors, je ne suis pas un expert de ces questions-là, je ne sais pas quelle est la vitesse, mais vous avez entre l'explosion et la publication de cette première analyse scientifique, 36 heures qui s'écoulent. Donc 36 heures, peut-être que pour des scientifiques, c'est assez peu pour avoir des résultats. En tout cas, mettez-vous à la place des riverains. Oui. Ils se voient pendant 36 heures des fumées épaisses et un discours qui commence par être rassurant et puis au fil des heures qui avec la ministre qui inquiète un petit peu, ben moi je peux les comprendre, même si 36 heures je ne suis pas assez compétent pour vous dire c'est beaucoup
et
ou c'est pas beaucoup.
Et la disparition de l'indice Atmo a disparu dans la journée,
c'est surtout qui vérifie
la pollution.
La vraie conséquence de tout ça, c'est la perception que l'on crée, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une époque quand même de défiance où les élites sont terriblement challengées, et finalement qu'est-ce que ça crée ce type de communication? Ça crée, d'ailleurs, c'est comme ça que les Français en parlent, ils disent « on nous ment » ou « on nous prend pour des imbéciles » parce qu'on est suffisamment adulte pour qu'on nous dise la vérité, mais visiblement, on nous dit pas la vérité. Et donc, ça cultive une forme de théorie du complot. Alors peut-être vrai ou pas vrai, on ne sait pas et on le saura, mais en tout cas, c'est toujours plus facile de dire la vérité.
Virginie Pradel, trois ministres sur zone, donc on a entendu Agnès Buzyn, il y a Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, il y a aussi Jean-Michel Blanquer qui a assuré que lundi matin, eh bien, les nettoyages auront lieu dans les écoles, ils auront eu lieu et ces écoles, collèges et lycées qui ont été fermés pourront rouvrir. Pour le coup, vous saluez une mobilisation gouvernementale ou bien une forme de panique, j'exagère, mais peut-être d'agitation qui traduit au fond une sorte de trouble ou de comme ça a été dit autour de la table.
De toute manière, l'incident est quand même conséquent. Je pense qu'après, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de ne pas céder à la panique. L'idée, c'est pas non plus d'affoler la population en disant que tout le monde va s'étouffer. C'est du bon sens.
Mais qu'est-ce qu'on fait, Thomas Clé, alors ?
Oui, sauf si c'était le cas. Sauf si c'était le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est du bon sens. Quand il y a de la fumée, quand il y a un incendie, forcément, il y a de la toxicité. C'est alors après, si elle est aiguë ou pas, voilà, c'est comme vous disiez, ça peut être subtil. Est-ce qu'il y a un vrai danger ?
On est entre aiguë et subaiguë. C'est ça le diagnostic qui est fait localement. Quand on est rouennais, on doit quand même être un peu perdu.
En tout cas, il y a eu des mesures de prévention qui ont été données. On n'a pas dit aux gens d'aller faire un jogging dans la rue. Il y a quand même eu des mesures qui ont été prises, mais sans affoler de façon générale la population.
Allez, on restera un petit peu sur ce sujet encore après la pause. Nous entendrons ce que disent les écologistes de cet accident industriel majeur survenu à Rouen. Pour l'heure, 20h40 sur France Info, rappel de l'info avec Léo Téchère.
Emmanuel Macron, absent de l'hommage populaire à Jacques Chirac dimanche aux Invalides. Dès 14h, la dépouille de l'ancien président sera présentée au public. Les obsèques, elles, auront lieu lundi en l'église Saint-Sulpice, toujours à Paris. Et cette fois, en présence d'Emmanuel Macron, qui ne prendra pas la parole. Tout risque de toxicité aiguë écarté par les autorités à Rouen. C'est la ministre de la Santé qui l'annonce après l'incendie de l'usine Lubrizol hier. Agnès Buzyn venue sur place ce soir avec la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. L'Assemblée nationale donne son feu vert à l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, les couples de lesbiennes, les célibataires. La mesure adoptée ce midi, le projet de loi bioéthique, lui, doit être voté avant l'été. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme appelle l'Égypte à changer radicalement d'approche face aux manifestations. Encore des rassemblements aujourd'hui dans le pays contre le président Abdel Fattah al-Sissi. Michel Bachelet demande la libération immédiate de tous ses opposants. Et puis Kylian Mbappé de retour dans le groupe du PSG, l'attaquant parisien remis d'une blessure à la cuisse. Il est convoqué par son entraîneur Thomas Tuchel pour le match de demain contre Bordeaux, comme son coéquipier argentin Mauro Icardi.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Faut-il s'inquiéter à Rouen? Je vous propose d'écouter ce qu'en disait tout à l'heure Sandra Régol. Elle est la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Elle était l'invitée de France Info.
Quand on a un préfet qui décrète qu'il n'y a pas de toxicité aiguë, ça a effectivement un sens juridique, puisque la toxicité aiguë est définie par le 50% de taux de mortalité possible, mais dans la population, ça n'a pas le même effet. Et déclarer que ces fumées qui, dans les faits, rendent les personnes à proximité malades, avec des vomissements, avec des maux de tête, avec tout un tas de céphalées, eh bien, c'est très étrange et ça n'est pas pour rassurer les personnes. Je ne sais pas si les résultats des analyses ont enfin été publiés, mais en tout cas, elles n'étaient toujours pas communiquées. Eh bien, tout ça, ce flou entretenu, quand on a une population qui est inquiète et qui souffre, ce n'est pas fait pour rassurer. Et oui, on demande plus de transparence.
Franck de Dieu, le souci aujourd'hui, c'est qu'au fond, les réseaux sociaux, l'information continue que nous sommes, va plus vite que la communication gouvernementale et surtout l'expertise.
Oui, et quelque part, l'opposition met un peu de l'huile sur le feu en disant tout ça est très étrange. Donc effectivement, bon, on est à quelques mois des municipales, c'est peut-être de bonne guerre, mais c'est vrai que... Il y a une sorte de montée non pas du risque, parce que je suis pas en mesure de le diagnostiquer, mais il y a une montée des angoisses et même une montée de la prise en compte du gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure de la mobilisation. Il est clair qu'on mesure pas la mobilisation d'un gouvernement à l'aune des ministres, du nombre de ministres qui sont sur les lieux, mais plutôt sur comment on prend en amont le problème et en aval pour la communication.
Thomas Clé,
et là il y a un problème.
Oui,
quand même.
Peut-être pour reboucler avec notre premier sujet qui nous a occupé sur Jacques Chirac.
Jacques Chirac, oui, bien sûr.
On se souvient que quand même dans le bilan de Jacques Chirac, il y a trois grands discours. Il y a le discours du Veldiv, il y a le discours de l'Irak sur l'Irak à l'ONU
et Johannesburg.
Par Dominique de Villepin et le discours de Johannesburg avec cette phrase. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Il faut pas oublier la deuxième partie de la phrase. C'est exactement ça, parce qu'on a ces usines. Là, on est dans une usine de centre-ville qui date de 1954, qui est à 3 km du centre-ville de Rouen et qui effectivement explose. Est-ce que, mais ça, j'imagine qu'une enquête judiciaire sera ouverte. Est-ce que tout avait été prévu?
C'est la question qui est posée.
Question va arriver.
Encore un mot là-dessus, Benjamin Grange.
En fait, c'est la vitesse de propagation des informations. Vous avez cité tout à l'heure les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il faut à peu près 2 heures pour que ce genre d'événement se propage rapidement sur les réseaux sociaux. Et si effectivement, plus vite que la fumée, et si effectivement c'est une rumeur, il faut presque 24 heures pour arriver à ce que finalement le contre-argument se diffuse. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est structurellement toujours en retard avec la communication classique, parce que forcément, on est dépassé par cette technologie. Donc, sauf que ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Donc, je veux dire, n'importe quelle, la communication aujourd'hui, elle s'exerce comme ça.
Allez, nous vous tenons bien évidemment informés de la situation à Rouen, sur France Info, à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT, sur franceinfo.fr. Et dans tout cela, il y a un sujet qui est quasiment passé à l'as aujourd'hui. Et j'ai décidé ce soir de traiter avec vous autour de cette table.
PMA.
C'est le budget. C'est un budget très gilet jaune qui a été présenté en Conseil des ministres ce matin. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a vanté une dette stabilisée, je résume. On va y venir dans un instant. Mais son ministre des Comptes publics a promis ce matin un peu plus de 10 milliards de baisses d'impôts. On écoute Gérald Darmanin.
5 milliards de baisses d'impôts sur le revenu. Qui vont toucher la quasi-intégralité des Français qui payent l'impôt sur le revenu. 95% de ceux qui payent l'impôt sur le revenu vont voir une baisse de leur impôt. Et par ailleurs, les 12 millions de Français qui sont dans la première tranche de l'impôt, qu'on pourrait appeler les classes populaires de notre pays qui travaillent, vont voir une baisse d'impôt de 350 euros l'année prochaine. Et nous donnerons consigne à la Direction générale des finances publiques que dès le mois de janvier, les taux d'imposition du prélèvement à la source puissent être appliqués à la baisse. Et donc les Français verront, dès le mois de janvier, une augmentation de leur pouvoir d'achat sur leur feuille de retraite ou leur feuille de salaire.
Alors Virginie Pradel, je me tourne vers vous. On vient d'entendre Gérald Darmanin. Je rappelle que vous avez publié cet ouvrage, cet essai Impomania, l'absurdité fiscale française. Vous êtes un petit peu à la fiscalité, ce que Stephen King est au livre d'horreur, si vous voulez.
C'est un thriller fiscal.
C'est un thriller fiscal, absolument. Mais c'est passionnant à lire. Qu'est-ce qu'il faut croire dans tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui dans ce pays? Je vous pose la question très simplement, parce qu'il y a toujours des avalanches de déclarations et de chiffres. Y a-t-il réellement aujourd'hui en France des baisses d'impôts?
Alors, bon, déjà, il faut quand même commencer par rappeler que les impôts n'ont jamais été aussi élevés, hein, parce que Darmanin se targue qu'il n'y a jamais eu une baisse aussi importante des impôts, bah forcément ils n'ont jamais été aussi élevés, donc ça aide. Et c'est vrai que quand on rapporte en fait au montant global des prélèvements obligatoires, à savoir plus de 1 000 milliards d'euros, 10 milliards, ça ne représente qu'un petit pourcent. Hein, sachant que là,
c'est vrai que nous dépensons, enfin nous réglons 1 000 milliards d'impôts, de prélèvements annuels.
Voilà, exactement. Donc, je trouve que la baisse massive des prélèvements obligatoires doit être relativisée. Et surtout, en fait, quand on regarde dans le détail, puisque je suis allée regarder avec grand plaisir, en fait, ce qui était présenté dans le projet de loi de finances, là, on voit qu'il y a des petits artifices. Alors, dans les 10 milliards, vous avez l'ISF qui a été supprimé il y a 2 ans, le prélèvement forfaitaire unique. Enfin, vous avez tout un tas de choses. Et surtout, il ne faut pas oublier, c'est un point sur lequel j'insiste dans le livre, c'est que le projet de loi de finances est un document d'affichage politique.
Hein, c'est-à-dire que le gouvernement. C'est un document très politique.
Oui. C'est un gouvernement très politique, mais qui est très amendé. Hein, il y a des milliers d'amendements après. Et en général, les meilleures surprises sont quand même dans les amendements. Hein. Rappelons que, par exemple, l'année dernière. Certains parlementaires ont eu l'idée lumineuse de vouloir taxer les parkings au mois de décembre. Hein. Bon, forcément, c'était pas dans le projet de loi de finances. Et en fait, tout est comme ça. C'est-à-dire que les niches.
C'est insincère.
C'est pas sincère, voilà, c'est pas transparent. Le gouvernement dit ce qu'il a envie de dire parce que forcément, il sait très bien que les journalistes vont être très focalisés sur le projet de loi de finances. Et tout ce qui passe par derrière. Via
les amendements.
Alors, est quand même pas très reluisant.
Voilà. Alors, Thomas Clay, vous dites que c'est insincère, vous pratiquez l'ironie, parce que c'est le même Darmanin qui vantait la rigueur budgétaire au début du quinquennat.
Ben, l'insincérité, c'est une notion comptable en réalité, pas seulement.
C'est ce qui a été reproché au quinquennat précédent.
C'est exactement, c'est pour ça que j'emploie effectivement ce terme, c'est que quand cette majorité est arrivée au pouvoir, elle a reproché au gouvernement, au budget qu'elle venait de récupérer, d'avoir été insincère. Ce qui est quand même souvent le cas en période électorale et au moment surtout d'alternance qui se profile. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le budget, c'est un affichage politique qui commence au mois de juin, qui termine avec les fameux arbitrages estivaux, qui termine avec l'annonce de la loi de finances, et puis ensuite, on va rentrer dans le vrai. Le vrai, ça commence maintenant jusqu'au 31 décembre, jusqu'au vote de la loi, avec les amendements. Et puis en réalité, pendant l'année d'exécution du budget, on va avoir d'autres éléments. On va avoir le collectif budgétaire qui va corriger le propre budget. Et puis on va avoir, ce qui est un élément que tout le monde oublie d'observer, c'est le degré d'exécution réel du budget voté. Et on est très très loin, on sera très très loin en mai 2020 de ce qui est discuté aujourd'hui. Alors, donc on peut continuer à discuter. C'est amusant, mais ça ne sert à rien.
Franck de Dieu,
il y a
acte 1 et acte 2 du quinquennat. Est-ce qu'on est passé à une politique de l'offre à une politique de la demande?
On est passé en fait à un budget typiquement chiracien. En fait,
il est partout.
Mais il est partout.
Il est à Rouen.
Si vous voulez, c'est un budget, en gros.
Budget chiracien, vous dites.
Oui, parce que c'est un budget de réalisme politique par rapport, je dirais, aux promesses initiales. Regardez, réalisme. Pourquoi? Parce que heureusement, on arrive à ne pas supprimer de postes de fonctionnaires, ou très rarement, très peu.
47.
Donc, je vous rappelle quand même qu'il en prévoyait 50 000 sur l'ensemble du quinquennat. Et tant mieux, il faut s'en féliciter par rapport au service public. Donc, en fait, il y a une forme de réalisme. Il s'est collé au réel. Et à ce moment-là, mais quand on se colle au réel, on érase un peu les promesses un peu faciles des temps. Et puis, des baisses d'impôts. Mais des baisses d'impôts pour qui? Des baisses d'impôts surtout au niveau de l'impôt sur le revenu, pour les classes quand même supérieures.
Bon, la première
baisse d'impôts. Oui, c'est vrai, mais bon, vous avez quand même 50% des gens qui ne paient pas d'impôts, et sur le revenu, pardon. Et puis, quand même, l'impôt sur les sociétés qui va donner 2,5 milliards aux patrons. Alors, on peut dire c'est très bien, c'est pas bien, etc. On peut en discuter. Mais autrement dit, il y a quand même, si vous voulez, des baisses d'impôts qui sont quand même aussi favorables à une classe, je dirais, aisée. Et puis.
C'est votre prisme, hein?
L'impôt sur les sociétés, c'est pas pour les patrons, quand même. L'impôt sur les sociétés, c'est pour les sociétés.
Oui, mais qui les paye?
Je vous propose de. Attends, Benjamin Grage aura la parole dans un instant. C'est promis, Benjamin, parce que vous n'avez pas encore parlé au sujet du budget. Mais il est 20h50 sur France Info. C'est le rappel de l'info avec vous, Léo Técher.
La ville de Rouen est clairement polluée, selon la ministre de la Santé. Mais sur France Info, Agnès Buzyn dit ne pas avoir d'inquiétude sur les premiers prélèvements effectués. Des suies, des galettes d'hydrocarbures à nettoyer avec précaution, dit sur place la ministre. Une quinzaine de syndicats du transport aérien appellent le gouvernement à l'aide ce soir. Leur secteur est en difficulté. Aucun repreneur retenu aujourd'hui pour Aigle Azur. XL Airways en cessation de paiement. L'intersyndicale propose un rendez-vous au secrétaire d'État au transport, l'ancien pilote Jean-Baptiste Djebari. Une mine d'or sauvage s'est effondrée aujourd'hui au Tchad. Au moins 52 morts dans le nord du pays. Une région gangrénée par le trafic illégal des chercheurs d'or. Une minute de silence sur 8 terrains de football. Ce soir, hommage à Jacques Chirac avant la 9e journée de Ligue 2. La Ligue 1 fera pareil demain et les amateurs aussi. Tout ce week-end, initiative de la Fédération française de football. Mais sur Twitter, la ministre des Sports demande la même chose à l'ensemble du monde du sport. Et puis dans 10 minutes, la demi-finale de l'Euro de volleyball. L'équipe de France affronte la Serbie à 21h dans un palais des sports plein à craquer. 13 000 supporters présents pour l'occasion.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Il y a eu la présentation de ce projet de budget au sortir du Conseil des ministres et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'est voulu rassurant sur les déficits publics.
Le premier choix politique, c'est la poursuite du rétablissement des finances publiques. Je rappelle que l'année prochaine, le déficit public sera de 2,2%, c'est le chiffre le plus faible depuis une vingtaine d'années. Il est conforme à nos engagements européens. Je rappelle que la dette qui a augmenté de près de 30 points au cours des 10 dernières années sera stabilisée et nous continuons à considérer que la dette est un danger pour la France et doit continuer à être stabilisée puis réduite.
Benjamin Grange, tout à l'heure, Franck De Dieu avait utilisé cette expression d'actualité, budget chiracien. Et quand on entend le Bruno Le Maire, on a la sensation qu'au fond, il y a une forme de musique qui est toujours la même, de gouvernement après gouvernement, quelles que soient les majorités, la dette, eh bien, elle est toujours là.
Oui, alors cette forme de musique, on l'a aussi dans l'impression que ça donne. Parce que quand on écoute derrière comment les Français le reçoivent, il y a toujours trois choses qui s'en dégagent. La première chose, c'est que ces sujets de dette sont des sujets lointains. On manipule quand même des milliards et des milliards en permanence, là où effectivement, on regarde du SMIC, c'est quand même de vrais sujets. La deuxième chose, c'est que chaque fois, c'est des sujets incompréhensibles. Parce que, ne pas oublier, quand un ménage est à découvert, eh bien, il est rappelé à l'ordre par son banquier. Alors que quand la France est à découvert, eh bien, c'est un tout autre traitement, eh bien, on continue à lui prêter. Et ça, je dirais, pour le commun des mortels, c'est quand même pas toujours très compréhensible. Et ça crée encore une distance entre, finalement, la population et puis évidemment, ceux qui dirigent les finances. Et puis, la dernière chose, et ça, c'est souvent pointé du doigt, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'on demande effectivement beaucoup d'efforts aux Français, mais finalement, est-ce que le gouvernement fait lui-même des
c'est
efforts
un thème
par
qui
rapport
revient
à
régulièrement.
Et ces trois éléments, c'est souvent ce qui revient chaque fois qu'il y a cette présentation du budget, finalement en écho d'un discours qui est plutôt technique, plutôt technicien, plutôt d'expert.
Virginie Pradel, pour poursuivre ce qui est très intéressant, Benjamin Grange, est-ce qu'au fond, il y a une forme de renoncement à réduire les déficits et la dette massive de ce pays?
Ah oui, on peut voir que le gouvernement a baissé les bras devant la révolte populaire. Bon, après, ça se comprend.
Vous dites que c'est un effet gilet jaune.
Il y a un effet gilet jaune, il y a un effet que on a l'impression que personne n'a envie de changer de logiciel en France. Hein. Personne n'a vraiment envie de baisser les dépenses publiques qui conditionnent quand même les véritables baisses d'impôts, hein, parce qu'il n'y a pas de magie fiscale, hein, malheureusement. Si ça baisse pas d'un côté, ça baisse pas de l'autre. Donc on reste dans un système de vases communicants. J'ai perdu ce que je voulais dire.
Oui, vous disiez au fond que quelque part, il y avait une forme de renoncement.
Ah oui, il y a un renoncement.
Du gouvernement, mais on va dire généralement, à faire baisser cette dette qui a un poids, qui est un poids pour ce pays.
Mais surtout qu'il y a des marges de manœuvre, parce qu'encore il y a quelques jours, alors vous me direz que c'est un exemple caricatural, mais on voit que Édouard Philippe a renoncé à supprimer la voiture et le chauffeur à vie pour les anciens premiers ministres. En fait, vous parliez d'exemplarité, c'est quelque chose d'extrêmement choquant. Enfin, c'est pourquoi Edith Cresson a encore un véhicule alors qu'elle a été ministre quelques mois il y a 30 ans. Les Français, c'est inaudible pour les Français. On ne peut pas leur demander des efforts quand il n'y a pas d'exemplarité au plus haut sommet.
Thomas Clay, c'est ce que disait tout à l'heure d'ailleurs Benjamin Grange. C'est finalement les jours dans la fracture sociale.
de Jacques Chirac.
De Jacques Chirac.
Oui, ben, je ne sais pas si c'est un budget chiracien, mais je suis d'accord que c'est un budget comme on en a connu beaucoup. Et pour reprendre l'exemple de ce qui a été dit sur la suppression, non pas des fonctionnaires, mais des postes fonctionnaires, c'est quand même pas la même chose. On nous a annoncé pendant à chaque campagne électorale, on nous annonce c'est vraiment une surenchère sur celui qui supprimera le plus de postes de fonctionnaires. Rappelez-vous de ce qu'avait promis Fillon. Emmanuel Macron était à 50 000, plus d'ailleurs 70 000 dans la fonction publique territoriale,
Fillon,
donc 120 000. Ça va être 10 500 sur le quinquennat. Là, c'est 47. Donc, ça montre bien qu'en réalité, ce sont des propositions qui ne sont pas tenables. Et pourquoi elles ne sont pas tenables? Et ça, c'est effectivement l'effet gilet jaune. Les gens veulent avoir des profs, des infirmières, des magistrats, des policiers, etc. Donc non, on ne supprimera pas des fonctionnaires.
Budget, effectivement, veut calmer la situation par rapport au gilet jaune. Mais va-t-il y arriver? Moi, je crois qu'il avait la possibilité tout de même. On a parlé des déficits publics. Pardon, mais le déficit public, il va baisser cette année. Il est à 2,2%. Il était à 3,1% l'année dernière. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais enfin, ça veut dire que quand même, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de poursuivre un système qui est un système libéral, d'austérité, alors qu'il avait la possibilité. Aujourd'hui, vous avez l'État quand même qui gagne de l'argent en s'endettant. Il avait la possibilité de créer une vraie rupture avec la logique maastrichtienne. 2,2% de déficit public, c'est finalement peu quand on peut s'endetter en gagnant de l'argent. Et là, il y avait la possibilité, pour le coup, de vraiment traiter, je dirais, en largement, le problème structurel, systémique des gilets jaunes par des services publics, du territoire.
Allez, on conclut avec vous. On conclut.
Oui, alors c'est sur Alstom, la nouvelle trahison à Alstom, où on révèle des documents et notamment comment tout Paris en a croqué au niveau des banques d'affaires et des cabinets d'avocats. Je vous en conseille la lecture.
Allez, la une de Marianne cette semaine. Et je rappelle, Virginie Pradel, Impomania, aidez-moi, l'absurdité fiscale française aux
vous
éditions.
Vous saurez enfin pourquoi vous payez 1000 milliards d'euros de prélèvements.
Allez, je vous invite à rester avec nous demain soir et ce week-end, les informés avec Neila Latrouze. Pour ma part, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci.